L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Êtes-vous prêt maintenant à aller dans la parole de Dieu? Amen. Êtes-vous vraiment prêt? Êtes-vous prêt à changer? Amen. Vous êtes prêt à changer? Êtes-vous prêt à être dérangé peut-être? Dérangé. Combien de personnes viennent à l'église pour se faire déranger? Mais juste du monde comme vous. Vous vous déplacez. Je m'en vais me déplacer pour aller à l'église à victoire, pour sortir de ma défaite à certains niveaux, pour entrer dans la victoire. Ce matin, nous commençons une série, peut-être, à moins que le Saint-Homme donne une onction de Speedy Gonzalez. Mais ça devrait être une série probablement sur l'art de la prière. L'art de la prière. Si vous voulez, l'école de la prière. Je vais vous aider à comprendre des choses sur la prière parce que plusieurs d'entre vous, vous êtes enfants de Dieu depuis de nombreuses années et vous priez et peut-être vous aimeriez découvrir plus d'informations sur la prière, comment avoir plus de victoires, plus de réponses dans votre vie de prière. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui diraient oui et amen, je veux plus d'informations là-dessus, je veux grandir dans la prière. Amen. Ben, heureusement, les deux personnes qui ont dit « Amen », vous pouvez rester, les autres, soyez bénis. Amen. Non, mais c'est ça. C'est important pour nous de prendre ce temps-là et découvrir des principes de la prière, parce qu'une fois que vous découvrez ces choses-là, votre vie va changer. Imaginez, si vous priez et vous voyez des réponses tout d'un coup, bien là, ça va être merveilleux. Donc, on va prier maintenant, on va pencher nos têtes, on va remettre cette portion au Seigneur. Père éternel, on vient devant toi encore une fois et Seigneur, on veut te remercier parce que tu nous as donné accès auprès de ton trône où nous pouvons prier à chaque jour, où nous pouvons être en relation avec toi dans cette communion d'intimité. Et aujourd'hui, je veux te remercier parce que chaque frère et chaque sœur dans cette maison vont s'approcher de toi. Je veux te remercier parce que tous ces enfants de Dieu vont connaître une nouvelle dimension dans ta présence. Et on te remercie maintenant pour la révélation que tu nous accordes. On a prié au nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. En 2003, avant d'aller en Alberta, je ne savais pas qu'on était pour déménager en Alberta, mais dans mon cœur, j'avais un désir tout d'un coup de vraiment étudier la prière. C'était un temps juste comme on vit là, proche de l'été, on était au printemps, et dans mon cœur, c'était vraiment en train de brasser, et j'avais une soif, je voulais apprendre plus de choses sur la prière. Comme vous savez, bon, j'ai été élevé dans un foyer chrétien, donc j'ai appris à prier depuis ma tendre enfance, mais je voulais connaître d'autres choses, j'avais une soif, et je me suis dit, si je peux vraiment découvrir la vie de prière selon le cœur de Dieu, bien ma vie va changer, parce que quand on connaît la prière vraiment, quand on a cette relation d'intimité avec Dieu dans la prière, bien toute notre vie va changer, parce que Dieu va intervenir à plein de niveaux. Mais si je prie mal, et si je vois pas les résultats, bien je vais souffrir à plein de niveaux. Peu importe le besoin que j'ai dans ma vie, si je sais comment prier, bien Dieu est capable d'intervenir. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, on va voir vraiment comment le Seigneur est capable de se révéler à nous au niveau de la prière. Comment on peut apprendre, selon la parole de Dieu, des principes et des lois spirituelles sur la prière. Vous allez peut-être dire, est-ce que quand on prie, on peut simplement partager au Seigneur notre cœur et lui dire des choses. Certainement, on peut ouvrir notre cœur, parler à Dieu comme un ami, mais il y a des lois spirituelles en même temps. Et si on ne connaît pas ces lois spirituelles, bien, on peut passer à côté. Et des fois, on peut dire, oui, mais Dieu est gracieux, Dieu comprend mon cœur, et même si je fais des choses qui sont contraires à ces lois spirituelles, Dieu est tellement gracieux, il va répondre quand même. Et je pourrais vous dire, non, c'est faux ça. C'est faux de croire ces choses-là. Par exemple, juste rapidement, avant d'aller vraiment dans les textes qu'on va voir ensemble, quelqu'un qui prie une prière anti-biblique, même si on est super sincère, bien Dieu ne pourra pas répondre à cette prière-là, parce qu'on est allé à l'entrave, on est allé à l'encontre plutôt d'une loi spirituelle qui est celle de la parole de Dieu. On doit prier des prières qui sont en harmonie avec la parole de Dieu. Hein, ça fait du sens? Donc, gloire à Dieu. Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est justement la puissance de la prière et comment le Seigneur veut vous faire découvrir une vie de prière. Et j'aimerais ça vous donner comme objectif cet été. Que ce soit une saison où vous allez vraiment vous rapprocher du Seigneur comme jamais auparavant. Je crois dans mon cœur que cet été, ça peut être un temps béni pour votre vie spirituelle. Amen. Vous savez, l'année passée et l'année d'avant, cette église a vraiment été bénie dans le temps de l'été. On a vécu une croissance numérique à l'église. Habituellement, les églises se vident l'été parce que les gens partent en vacances. Mais dans notre cas, même s'il y a des gens qui partent en vacances, c'est normal, bien qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens en vacances continuent à prier pour l'église parce qu'ils n'ont pas pris une retraite de Dieu. Des fois, on peut changer notre routine. OK, on peut décrocher de la routine de la vie quotidienne, mais on ne décroche jamais de Jésus, on ne décroche jamais de Dieu. Amen. Donc, quand vous êtes en vacances, vous apportez votre Bible, vous apportez vos CD de louanges, vous êtes dans votre Winnebago, ou dans votre tente roulotte, ou dans votre hôtel 5 étoiles, mais vous louez le Seigneur quand même. Amen. On ne prend jamais des vacances de Jésus. C'est comme si on disait, ben, je prends des vacances de ma femme là, pendant 2 semaines. Ça passera mal chez nous, ça. Hein? Mais c'est comme ça, c'est la même chose avec Dieu. On ne prend jamais des vacances de Dieu. Donc, Dieu fait partie de notre vie à chaque jour. Et ceci dit, on a vécu dans le passé une croissance numérique et je peux vous le dire, on va le vivre encore cet été. Amen. On va encore voir une croissance numérique cet été à l'église. Mais pas juste ça. Je veux voir une croissance dans votre vie spirituelle. Mais ça, ça dépend de vous. Ça dépend si vous êtes prêt à payer le prix et quand je dis ça, si vous êtes prêt à vous consacrer au Seigneur, et je crois que vous pouvez avoir comme objectif, aujourd'hui, vous pouvez décider, cet été, moi, je veux m'approcher de Dieu comme jamais auparavant. Ça, c'est une chose assez remarquable. Si ça fait 25 ans que vous êtes sauvé et vous décidez, moi, là, à partir d'aujourd'hui, je veux m'approcher de Dieu même plus que 25 ans d'historique de vie chrétienne. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Vous pouvez décider aujourd'hui, cet été, et ensemble, collectivement, on peut décider, cet été-là, c'est un temps où on va se rapprocher, on va vraiment là aller proche du Seigneur, on va vraiment se rapprocher de Lui, et on va vivre cette intimité avec Lui, cet été. Et si on est tous décidés, on a tous l'objectif d'être proche du Seigneur, de vraiment avoir ce temps de fraternité, ce temps de consécration, on va vivre des choses merveilleuses ensemble. Amen. Donc, moi, je vous donne ça. Et comme j'étais en train de vous expliquer, quand j'étais j'étais au Québec, mais avant de partir pour l'Alberta, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais vraiment étudier la prière. J'avais ce cœur-là. Mais le Seigneur savait qu'il y avait une saison qui était pour démarrer, une nouvelle saison pour ma vie qui était pour être en Alberta. Mais moi, je ne savais pas. Mais j'ai passé tout l'été à prier, chercher la face de Dieu, à lire toutes sortes de livres sur la prière. Parce que je voulais me remplir de connaissances. Je voulais connaître les choses de Dieu. Et les choses que je vais vous partager aujourd'hui en fait partie un peu de cette recherche en 2003. Sauf que c'est ça fait partie d'un petit peu de ma recherche, mais depuis ce temps-là, le Seigneur a continué à se révéler à moi, heureusement. Gloire à Dieu, parce que Dieu est vivant. Mais vous allez vivre ou recevoir aujourd'hui des choses concernant la prière, et j'espère vraiment que ça va vous aider. Donc, je vous invite maintenant à tourner dans Jacques, chapitre 5, et on va aller au verset 16. Jacques, chapitre 5, verset 16. J'aimerais ça vous faire décréter quelque chose pour ceux qui veulent vivre cette chose-là. Concernant votre objectif personnel de vous approcher du Seigneur cet été. Je vais le dire une fois, je vais vous laisser méditer là-dessus, puis après, si vous êtes d'accord, je vais vous inviter à le dire. Cet été, je vais découvrir ou redécouvrir ma vie de prière. Cet été, je vais découvrir ou redécouvrir ma vie de prière. Si vous le croyez, là, enregistrez ça dans votre tête. Cet été, c'est pas un temps où je vais décrocher, mais cet été-là, je vais vraiment découvrir une vie de prière comme jamais auparavant. Amen. Moi, je fais partie de cette gang-là. Vous avez dit, ouais, mais pasteur, tu sais pas prier? Oui, mais je veux apprendre plus. Je veux redécouvrir les profondeurs de la prière cet été. Je peux être sur une chaise de parterre, mais je m'attends, là, pendant que je suis en train de lire ma Bible, quand je suis en train de prier, je m'attends que le Seigneur va me montrer des nouvelles choses. Amen. Jacques, chapitre 5, verset 16, il est écrit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je vais relire le texte. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière ou la demande, si vous aimez mieux, fervente. Le mot fervente dans le grec, c'est énergéo. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? L'énergie, c'est une prière fervente ou opérante. Une prière qui sait opérer des choses. Du juste. La prière fervente du juste, c'est qui ça, le juste? Le juste, c'est celui qui est non fautif ou innocent. Je vous donne les définitions dans le grec ici. L'innocent, ça c'est qui, enfant de Dieu? Le non fautif, le juste. Bien, c'est moi et c'est vous, si vous avez été pardonné de vos péchés. Donc, la prière fervente du juste a une grande, et le mot grande veut dire beaucoup, beaucoup d'efficacité. N'est-ce pas absolument merveilleux? Et là, vous allez dire, la parole de Dieu me dit ça, que la prière du juste a une grande efficacité. Bien, moi, je suis juste, je fais des prières, mais peut-être j'ai pas beaucoup d'énergie dans ma prière. Peut-être c'est pas une prière fervente, parce qu'on dirait qu'elle n'est pas trop efficace. On dirait que je vois pas vraiment de résultat. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot efficace? Le mot efficace, ça veut dire force. Ça nous parle ici de force, de puissance, de capacité. Vos prières ferventes ont beaucoup de capacité, beaucoup de puissance à faire des changements dans l'invisible. Votre vie de prière, vous avez le droit, en tant qu'enfant de Dieu, à vivre des grandes choses et voir des grandes choses se produire dans vos vies lorsque vous priez d'une position de justice. Et on va voir aujourd'hui des choses ensemble qu'on doit vraiment saisir si nous voulons avoir une vie de prière vraiment efficace. Le Seigneur désire qu'on puisse voir les réponses à nos prières. Vous savez, vous pouvez passer une heure par jour à prier et ne rien voir comme résultat. Et vous passez à côté des choses. Mais vous pouvez prier peut-être 15 minutes et voir des miracles. Et puis on va se dire, mais pourquoi il y a une différence? Bien, c'est parce que des fois on peut bien prier et des fois on peut mal prier. Vous allez dire, ah oui, mais dans quel sens? Je manque un peu d'éloquence, j'ai pas assez de belles tournures de phrases. Non, c'est pas du tout ça, c'est parce qu'il y en a qui savent opérer dans les lois spirituelles de Dieu et il y en a d'autres qui sont ignorants de ces choses-là. Et Dieu, il vient toujours honorer sa parole. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va enlever les obstacles devant nous. On va enlever les obstacles dans notre vie de prière qui nous empêchent de voir les résultats. Combien d'entre vous, vous aimeriez ça, voir plus de résultats dans votre vie chrétienne, dans votre vie de prière? Amen. Moi, je fais partie de cette gang-là. Moi, je fais partie de cette compagnie qui désire voir plus de résultats. Donc, quand on a ce désir-là, on examine un peu la prière pour découvrir les choses qu'on a besoin d'apprendre. Exemple, je vais vous inviter à tourner dans 1 Pierre, chapitre 3 et le verset 7. Si vous dites, ben moi, je crois pas là-dedans qu'on peut avoir des obstacles devant nous dans la prière. Le ciel est ouvert et puis j'ai juste à parler à Dieu comme je veux et puis voilà, je peux prier et puis il n'y a pas d'obstacle. Bien, j'aimerais ça vous inviter à tourner dans 1 Pierre chapitre 3 et le verset 7. 1 Pierre chapitre 3 verset 7, je vais vous lire à partir de la Bible du Sommeur. Ici, ça nous donne simplement un exemple. Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Avez-vous lu la même chose que moi? Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a des gens qui prient, mais qui sont en chicane, ils ont des conflits de couple. Le mari manque de respect envers son épouse. Et ici, nous lisons dans le texte que même ça, ça peut faire, ça peut créer des obstacles dans le monde spirituel et dans notre relation avec Dieu. On veut prier, on veut avoir ce temps de prière avec Dieu, mais on est en chicane avec notre épouse ou notre mari et puis ça cause des problèmes dans votre vie de prière. Donc, êtes-vous d'accord aujourd'hui avec moi quand je vous dis qu'il y a des obstacles des fois devant nous qui nous empêchent de vraiment vivre une vie de prière victorieuse? Amen. Est-ce que vous êtes réveillés ce matin? Amen. On va acclamer le Seigneur maintenant. On va se réveiller. Merci Seigneur Dieu pour les percées qu'on va vivre aujourd'hui. Amen. Amen. On risque de faire ça souvent ce matin. Amen. Aujourd'hui, en passant, je dois vous avertir, je peux vous enseigner sur la prière. Vous pouvez remplir votre intelligence de connaissances sur la prière, mais vous ne vivrez jamais la puissance de la prière comme ça. C'est pas simplement en recevant les informations, mais ces informations-là doivent descendre dans votre cœur, dans votre esprit. Mais là, ensuite, vous devez passer à l'autre étape, et c'est celle de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire que vous allez commencer à prier si vous ne priez pas régulièrement. Si vous dites, ben moi je prie le dimanche matin à l'église de la Victoire, je peux vous dire c'est pas assez pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Oui, mais je vais au groupe vie en plus. Je peux vous dire c'est pas assez pour vivre votre vie chrétienne d'une façon victorieuse. Vous devez prier à tous les jours. Et une autre chose que je veux vous dire, aujourd'hui je veux vous inviter à changer votre vision sur la prière. Si vous pensez, bien je dois prier pour être un bon chrétien, bien vous passez à côté de la plus grande bénédiction. Parce qu'on ne doit pas s'approcher de la prière pensant que je dois prier, comme quoi c'est un devoir. Mais on doit s'approcher de la prière avec la vision que j'ai le privilège de m'approcher du Dieu créateur. J'ai le privilège d'avoir cette relation d'intimité dans la prière avec le roi des rois. Quand vous avez accès au trône, vous avez un privilège, enfant de Dieu. Vous avez un grand privilège. Donc, quand vous vous approchez du Seigneur et vous allez prier, réalisez que vous avez vraiment un privilège, que vous avez une bénédiction énorme, les chouchous du bon Dieu qui peuvent prier et passer du temps avec le roi des rois. Amen. Donc, ça, c'est super important. Donc, vous devez non seulement recevoir les informations que je vais vous partager aujourd'hui, mais en même temps, vous devez pratiquer la prière par la suite. Vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'obstacle numéro un concernant qu'est-ce qui nous empêche de progresser dans notre vie de prière. La première chose, c'est le manque d'assurance par rapport à notre position en Christ. La première chose, c'est un manque d'assurance. Quand on prie et on n'a pas l'assurance que Dieu nous entend vraiment parce qu'on ne connaît pas notre position de justice. Si vous rappelez le texte qu'on a lu, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est la prière fervente du juste. Si on ne se pense pas ou on ne se voit pas dans notre justice en Christ, on passe à côté. Je peux vous dire, j'étais dans des réunions de prière, des fois avec des leaders, là, plein de leaders canadiens qui priaient. Et puis mon cœur a été attristé parce que parfois, je voyais des gens, des hommes et des femmes de Dieu qui sont vraiment en amour avec Dieu, mais qui ne connaissent pas encore leur position en Jésus-Christ. Et puis, j'entendais des prières et ça me dérangeait énormément. « Oh Seigneur, nous sommes indignes, Seigneur. Oh, pitié de nous, Seigneur, nous sommes des pauvres pécheurs, Seigneur. Oh, nous sommes sales, Seigneur, et purifie-nous, Seigneur. » Et ça me dérangeait énormément. Et vous allez dire, mais pourquoi? Parce que quand on dit au Seigneur que je suis indigne aujourd'hui, je suis en train d'insulter l'œuvre de la croix. Je suis en train d'insulter l'œuvre de la croix. Je peux vous dire aujourd'hui que je ne suis plus indigne, parce que j'ai été pardonné. Je suis juste aujourd'hui, et je n'ai point honte de le dire, je suis juste. J'ai été parfaitement pardonné. Avant, j'étais indigne. Avant, j'étais un pauvre pécheur. Mais aujourd'hui, je suis un saint de l'Éternel, et je peux m'adresser à mon Dieu créateur dans la justice que j'ai reçue en Jésus-Christ. Parce que je suis en Christ. Donc, quand un homme ou une femme de Dieu se met à prier des prières comme ça, leur prière, là, est diminuée énormément parce qu'on ne réalise pas qui nous sommes. Et en même temps, on pense, Seigneur, je m'approche de toi, je vais prier, je vais te présenter certaines choses, mais je suis juste un pauvre pécheur et j'espère que tu vas faire quelque chose pour moi. Je suis dans l'espoir. Mais il y a une différence entre être dans l'espoir que Dieu va m'entendre et peut-être il va faire quelque chose. Il y a une différence entre celui qui est comme ça et celui qui dit, je le sais que mon Dieu m'entend, je sais que j'ai cet entretien maintenant avec mon Dieu et qu'il me reçoit et en plus il entend mes prières et puis je me présente avec audace, avec assurance, sachant que je suis entendu et non seulement juste entendu, mais répondu. Répondu. Donc ça, c'est super important. Première chose qu'on veut voir ensemble, c'est le manque d'assurance. Dans Hébreux chapitre 4 et le verset 16, il est écrit, « Approchons-nous. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Je vais le relire. Approchons-nous donc avec assurance. Dites assurance. du trône de la grâce. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, trouver la faveur, la puissance de Dieu pour être secouru dans nos besoins. Donc, si vous priez et vous n'êtes pas dans cette assurance, vous êtes plus dans une crainte, il y a un problème. Dieu veut que vous puissiez vous approcher devant lui, devant son trône, avec assurance. Et vous dites, pourquoi, comment est-ce que je peux faire ça? Bien, parce que dans Romains 8, verset 1, que vous connaissez très bien, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai aucune condamnation. Je peux me présenter devant Dieu, le Père, dans la prière, sans aucune condamnation. Mais vous dites, oui, mais t'es pas parfait. Ça, c'est faux. Je suis parfait en Christ, imparfait dans ma condition. Mais quand je me présente devant le Seigneur, là, je me présente dans ma position en Christ. Et aujourd'hui, je me présente sans aucune crainte. Si vous dites, bien, moi, pasteur, là, c'est pas ma réalité, j'ai jamais vraiment prié comme ça, j'ai toujours eu cette crainte quand je m'approchais de Dieu. Et des fois, on peut se mélanger entre révérence pour Dieu et une crainte où on a juste peur parce qu'on sait pas qui nous sommes en Christ. Si vous dites, ben moi, je sais pas, quand je prie, j'ai pas cette assurance-là. Il peut y avoir deux raisons. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore sauvé. Ça se peut, ça, que vous n'êtes pas encore sauvé. Et vous avez peur de prier, vous avez peur de vous approcher de Dieu parce que vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Une des choses qu'on doit voir ensemble, c'est dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 9. Si vous n'avez encore jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, peut-être c'est pour ça que vous avez du mal à prier. Vous n'êtes peut-être pas encore sauvé. Il faut en parler, c'est important, là. Ici, ça dit, dans 1 Jean 3, 9, « Quiconque est né de Dieu, dit né de Dieu. » Ça veut dire passer dans la nouvelle naissance. Nous avons reçu l'expérience de la nouvelle naissance. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Ça veut dire ici, il ne peut pécher, ça veut dire il ne vit pas dans le péché. Si vous vivez dans le péché, encore aujourd'hui, dans le sens que vous pratiquez le péché comme si rien n'était, et là vous voulez prier, vous allez avoir beaucoup de difficultés à prier dans cet état-là, si vous êtes encore pécheur. On ne peut pas s'approcher du trône de la grâce dans un état de pécheur et penser qu'on va être reçu, et comme là je vais commencer à partager ma vie, tout ça. Non, on va avoir un mauvais sentiment, on va être super mal à l'aise, et c'est normal, parce que Dieu veut qu'on se repente. Amen. Avez-vous une attitude passive concernant vos péchés? Quand le Seigneur met son spotlight du ciel et puis vous dites, oh, ça ne me dérange pas, je vis dans le péché, je sais, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Ou avez-vous un sentiment d'urgence? Il faut que je me débarrasse de ces péchés-là. J'ai besoin de faire du ménage dans ma vie. Je vous pose ces deux questions-là. Ça va vous aider à comprendre si vous êtes vraiment sauvé. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas heureux en vivant dans le péché. Il y a des gens, des fois, qui disent, ah, bien, moi, j'en peux plus, je me détourne de Dieu, j'ai vécu telle ou telle chose, et puis là, ils quittent l'Église. Mais le Saint-Esprit en dedans d'eux, là, est là, travaille, et les gens ne peuvent pas vivre dans le monde, dans le péché, dans la joie, c'est impossible. Quand un enfant de Dieu va dans le monde, il est rempli de chagrin. Il est comme, non, je suis pas heureux, comment ça? Eux, ils peuvent vivre le party, moi, je suis incapable de vivre le party dans ces péchés-là sans être attristé. Parce que là, cette personne-là a été sauvée, et là, le Saint-Esprit est attristé. Mais si vous n'êtes pas attristé, vous avez vraiment de la difficulté à prier, bien peut-être c'est parce que vous n'êtes pas sauvé et vous avez besoin d'être sauvé. Amen. Deuxième raison, vous pratiquez le péché, vous êtes sauvé, mais vous pratiquez le péché. Ça peut être la raison vraiment pourquoi vous avez de la difficulté. Dans 1 Jean 3, verset 21, 1 Jean 3, 21, il est écrit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Je vais le relire ici. « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Mais l'inverse est vrai. Si notre cœur nous condamne, on n'aura pas d'assurance devant Dieu. Comprenez-vous ça? C'est que si vous êtes dans un état de péché en tant qu'enfant de Dieu, c'est pour ça que votre vie de prière ne fonctionne pas bien, parce que vous vous sentez condamné. Et c'est normal. Et c'est une bonne chose. Vous dites, oui, mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent aussi dans la volonté de Dieu. Mais si vous marchez dans le péché, je m'attends que vous allez sentir un sentiment de culpabilité. Puis l'objectif, c'est pour que vous puissiez vous repentir. Si on vit dans le péché, puis on veut prier, voyez-vous, il y a un problème là. Si on vit dans le péché, en tant qu'enfant de Dieu, notre esprit devrait être attristé parce que le Saint-Esprit qui est en nous est attristé. Amen. Il y a un remède. Heureusement, il y a un remède devant nous. Dans Jacques chapitre 4 et le verset 8, Jacques chapitre 4 et le verset 8, il est écrit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Des fois, les gens disent, « Ah, ben j'ai prié, j'ai pas eu de réponse. » Je m'attends que Dieu, il va faire quelque chose. C'est à son tour. Non, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est à nous de s'approcher de lui. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, c'est important de faire ça, de demander pardon au Seigneur si on vit dans le péché. Une bonne nouvelle aussi, c'est dans Hébreux 9, verset 14, ça dit ici, « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? » Je vais relire cette partie-là, ça dit, en parlant de Jésus, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Ça veut dire que votre vieille vie de péché peut être totalement effacée et même votre conscience peut être purifiée. C'est merveilleux ça, n'est-ce pas merveilleux? Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Les mauvaises choses que vous avez faites, vous faites totalement purifier. Si là, vous êtes dans cette position aujourd'hui, vous réalisez, écoute, moi, j'ai besoin d'être pardonné. J'ai vécu dans le péché. Peut-être je suis pas encore un enfant de Dieu. Bien, aujourd'hui, vous pouvez devenir un enfant de Dieu. Et deuxièmement, si vous êtes un enfant de Dieu, mais vous marchez dans le péché, aujourd'hui, vous pouvez faire le ménage et dire, Seigneur, j'ai devant toi. Je veux vraiment être sérieux avec toi. Je veux te demander de me pardonner de tous mes péchés, me laver, me purifier. Et aujourd'hui, je veux commencer une nouvelle vie avec toi dans la sainteté. Je veux marcher dans la sainteté. Et là, quand vous marchez dans la sainteté, vous pourrez vous présenter devant le Seigneur sans aucun sentiment de condamnation. Mais il faut faire ce ménage-là. Si vous voulez avoir une vraie vie de prière qui va aller de l'avant. Amen? Donc, faut être pardonné. Donc, votre position en Christ, c'est une chose super importante parce que c'est un obstacle devant nous. Ce manque d'assurance dans notre vie de prière. Deuxième obstacle qui est devant nous, c'est encore une fois un manque d'assurance. Ici, mais par rapport à la volonté de Dieu. Quand vous priez et vous ne connaissez pas la volonté de Dieu sur plein de sujets, vous allez prier dans l'ignorance et vous n'aurez pas l'assurance. Et le Seigneur veut vous donner cette capacité de prier avec assurance aujourd'hui. Quand vous priez, vous connaissez la volonté de Dieu sur des sujets, donc vous pouvez prier vraiment avec assurance, avec certitude que vos prières vont être répondues. Amen. Donc, une des choses, peut-être qu'il y a des gens qui disent, bien, comment est-ce qu'on peut vraiment arriver à connaître la volonté de Dieu? Bien, dans Proverbes chapitre 4, on va aller ensemble dans Proverbes chapitre 4, verset 20 à 22. C'est un passage des Écritures que j'aime beaucoup, concernant la volonté de Dieu. Comment nous pouvons découvrir ce que Dieu veut? Ici, on va voir la volonté générale pour chaque enfant de Dieu. Dans Proverbes chapitre 4, verset 20 à 22, il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Ici, c'est un texte que j'aime vraiment. Ça nous parle de la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite à connaître la vérité de la parole de Dieu. Comme nous passons du temps à lire la parole de Dieu, nous découvrons les principes que Dieu a en réserve pour nous, les principes de la vérité de la parole de Dieu. Admettons, vos enfants ne sont pas sauvés encore. Bien, là, ici, vous connaissez la volonté générale, c'est que Dieu veut qu'ils soient sauvés. Amen. Donc, on connaît ça, la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on vienne à l'église, c'est écrit dans la parole. C'est la volonté de Dieu qu'on soit guéri, c'est écrit dans la parole. C'est la volonté de Dieu qu'on mange à chaque jour, c'est écrit dans sa parole. C'est des principes ici, c'est une connaissance de base pour chaque enfant de Dieu, c'est général, une connaissance générale. Donc, c'est facile à comprendre. Mais là, quand on parle d'une connaissance spécifique de la parole de Dieu, par exemple, ben, je suis appelé à marier Mathilde ou Ginette. Ben, le Seigneur m'a révélé que c'était Mathilde. Il n'y avait pas de Ginette en passant. Non, mais juste vous montrer, c'est pas écrit dans la parole de Dieu que j'étais pour marier Mathilde Gaudreau. C'est pas écrit dans la parole, mais j'ai découvert que c'est la volonté de Dieu. Par exemple, je vais aller à quelle université? Ben, c'est pas écrit dans la parole de Dieu quelle université que je vais fréquenter. Parce qu'on dit que dans la parole de Dieu, toutes les réponses sont là, certainement. Mais IBM, admettons, vous travaillez chez IBM. Ce n'est pas écrit non plus que vous allez travailler chez IBM. Comment est-ce qu'on fait connaître la volonté de Dieu et prier d'une façon de foi efficace si on n'est pas certain? Bien, on connaît les principes de la parole de Dieu, de un. OK? Et comme on connaît les principes de la parole de Dieu, notre intelligence commence à être changée. On est transformé par le renouvellement de notre intelligence. Et là, on est capable de discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Admettons, vous cherchez un emploi, mais c'est un emploi en dessous de la table. OK? Ou c'est illégal. Vous allez être payé au noir. Et là, vous pouvez prier, « Seigneur, montre-moi, Seigneur, si tu veux que je travaille au noir. Oh, Seigneur, montre-moi. » Et je prie avec fervence, avec ferveur, je te prie très fort. « Oh, Seigneur, est-ce que tu veux que je travaille au noir? » Vous n'avez pas besoin de prier. Cette prière-là, c'est une prière vaine. Pourquoi? Parce que Dieu ne va jamais endosser le péché. « Oui, mon enfant, va dans ce travail au noir. » Non, ça ne sera jamais Dieu. Si vous entendez une voix, c'est celle du diable ou de votre chair. Mais vous voyez, des fois, il y a des gens comme ça qui prient en dehors de la parole de Dieu. C'est un non-sens, OK? Et puis Dieu nous guidera jamais contraire à sa parole. Donc, la volonté spécifique, comment est-ce qu'on peut faire? Bien, comme je viens de vous dire dans Romains 12, verset 2, il est écrit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, on peut retrouver le caractère de Dieu, les principes de Dieu dans la parole. Mais maintenant, dans Ésaïe 55, verset 12, c'est un autre texte super important. Quand on veut découvrir la volonté de Dieu pour notre vie, une des choses qu'on doit vraiment comprendre, c'est qu'on doit être à l'écoute de notre esprit. Nous sommes un esprit, premièrement. Des fois, les gens ont du mal à comprendre ça, mais nous sommes un esprit et ça s'adonne qu'on habite dans un corps. Et notre esprit est connecté avec l'esprit de Dieu et notre esprit nous parle. Et qu'est-ce qui se passe? On doit être à l'écoute de l'esprit de Dieu qui nous dirige, qui nous conduit dans sa vérité. Une des choses qui se passe des fois, c'est quand le Seigneur nous appelle à faire telle chose, mais on a l'absence de la paix, on doit être à l'écoute. Et quand le Seigneur nous accorde sa paix, on peut être à l'écoute de ça également. Dans Ésaïe 55, verset 12, il est écrit, « Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. » Conduits en paix. C'est super important. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance, mais dans Colossiens, chapitre 3, verset 15, il est écrit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » La paix de Christ devrait régner dans vos cœurs. Ça, c'est une façon que vous allez savoir si vous êtes dans la volonté de Dieu, si c'est biblique, premièrement. Mais quand c'est une chose spécifique, comme l'université que vous allez fréquenter, bien, si dans votre cœur, vous avez vraiment une paix, le Seigneur vous a conduit vers cette université-là, vous avez prié, vous avez vraiment ressenti la paix de Dieu, vous avez eu aussi peut-être d'autres réponses à vos prières concernant votre décision, et vous avez vu le Seigneur intervenir pour vous révéler des choses, bien, gloire à Dieu. Mais la chose la plus importante, c'est d'être à l'écoute de la paix. Ça, c'est pour des choses qui sont, ici on peut dire, la volonté spécifique de Dieu. Amen? Mais un obstacle, c'est toujours là pour la prière, c'est quand on ne connaît pas la volonté de Dieu et quand on est dans la noirceur. Voici maintenant des prières que le Seigneur va répondre. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Ici, nous allons voir des prières remplies d'assurance. Les gens qui prient avec assurance et qui voient des résultats. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 14 à 15, il est écrit, « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Hey, c'est puissant ça. Est-ce que je peux le relire? Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, dites selon sa volonté, il nous écoute. Il y a des gens qui prient contre sa volonté et puis sont frustrés et déçus, qui n'ont pas les réponses à leurs prières. Mais aujourd'hui, faites le ménage et dites, je vais prier des prières qui sont selon sa volonté. Je vais prier des prières qui sont selon la volonté de Dieu. Ensuite, ça dit, il nous écoute. Verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Oh, là, on rentre dans une autre dimension. Là, au lieu de juste faire le ménage puis dire, OK, là, je vais plus juste prier des prières charnelles. Là, je vais prier des prières selon la volonté de Dieu. Et là, je peux savoir dans mon cœur, dans mon esprit, que j'ai déjà la réponse à cette prière. Oh, là, ça change ma vie de prière. Par exemple, vous priez pour quelqu'un qui est malade. Bien, la parole de Dieu est très, très claire. Le psaume 103, vous lirez ça. Il guérit toutes nos maladies. C'est écrit dans la parole de Dieu, le forfait divin, le salut en Jésus-Christ. C'est pas juste le pardon de nos péchés, c'est tout le kit. Le forfait de Dieu, c'est rien de manquant, rien de brisé. Le shalom de Dieu. Bon, vous croyez ça? La parole de Dieu est claire là-dessus. Donc, quand vous priez, il y a des gens qui prient, « Bien, Seigneur, si c'est ta volonté. » Ça, c'est une prière que Dieu ne peut pas répondre à ce niveau-là parce que c'est une mauvaise prière pour la mauvaise, pour le mauvais besoin. Et je vais vous expliquer les sortes de prières d'ici quelques temps. Mais des fois, on prend les lois spirituelles d'une prière et puis on mélange tout ça dans un melting pot et on s'imagine que Dieu peut répondre. Mais ici, quand on prie une prière qui est révélée dans la parole de Dieu, on prie avec foi et là, on reçoit la réponse par la foi. Et là, on le sait qu'on a reçu. Donc, si quelqu'un est malade, je peux prier pour la personne et relâcher ma foi et remercier le Seigneur par la suite parce que j'ai déjà la réponse. Il y a certaines personnes ici, vous ne croyez pas, là. C'est-à-dire, si nous savons qui nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous le savons. Le savez-vous? Amen. Marc 11, verset 24. C'est comme quelqu'un qui dit, « Seigneur, sauve mes enfants si c'est ta volonté. » C'est clair, Dieu l'a révélé dans sa parole que c'est sa volonté de sauver vos enfants. On ne prie pas des prières comme ça. Ça, c'est une perte de temps. Oui, mais j'ai prié une heure là-dessus si c'est ta volonté, mais c'est une heure gaspillée. C'est important. C'est important de prier des prières qui sont bibliques. Marc 11, verset 24. « Tout ce que vous demanderez en priant, » dites « en priant ». Dites-le encore. En priant. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai prié, j'ai rien vu tout de suite. Bon, ça n'a pas marché cette affaire-là. Vous venez d'annuler votre prière. Vous venez d'annuler votre prière. La Bible nous dit « tout ce que vous demanderez en priant ». Je prie, là, je m'attends, écoutez bien, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Je prie, puis là, je viens de saisir cette chose-là par la foi. Je crois que j'ai reçu là, au même moment que j'ai prié. Êtes-vous capable de faire ça? Priez et croire que vous avez reçu maintenant. Mais si vous avez reçu, même si les symptômes dans votre vie n'ont pas changé, là, ça ne change absolument rien parce que vous avez reçu déjà dans votre esprit la réalité de cette chose-là. Là, il reste juste la manifestation de cette chose. Amen. La manifestation et la réception, c'est pas la même chose. J'ai reçu dans mon esprit. Là, je commence à remercier le Seigneur pour la manifestation qui va être là d'ici quelques secondes ou peu importe le temps. Des fois, c'est ça, les gens se font voler parce qu'ils ne voient pas dans le naturel. Faut voir avec les yeux de l'esprit, premièrement. Ensuite, dans Matthieu 6, verset 7, ici, nous avons encore une loi spirituelle que le Seigneur Jésus a donnée. Dans Matthieu chapitre 6, verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Des fois, on fait ça. On prie une prière, on répète la prière, on répète, on répète, on répète, on répète, parce qu'on pense que Dieu n'a pas entendu. Et on répète, et on répète, on répète. Et là, on pense qu'à force de répéter ces choses-là, que là, finalement, le Seigneur va comprendre, c'est dit... En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Nos paroles deviennent vaines aussi si on ne croit pas dans la réalisation de ces paroles-là. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Là, certaines personnes peuvent penser tout de suite à la parabole de la veuve et du juge inique. Et puis, on ne passera pas de temps aujourd'hui. En passant, je vais vous faire une petite publicité. Si vous êtes intéressé de vraiment connaître à fond la prière, on a un cours merveilleux à l'IBEM. Campus La Victoire, sur la prière que vous pourrez vraiment découvrir et examiner chaque sorte de prière que vous pouvez prier. C'est merveilleux, mais on ne passera pas le temps aujourd'hui de tout défricher, ces choses-là, ça serait trop long. Mais juste vous laisser savoir ici, le Seigneur nous appelle à prier avec foi et une fois qu'on a prié avec foi, on devrait commencer à le remercier. Dans Colossiens 4, verset 2, il est écrit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Ici, je suis en train de vous parler présentement de la prière de la foi. Et on va voir les sortes de prières. Mais la prière de la foi, lorsque j'ai fait une prière de foi, qu'est-ce qui se passe? J'ai remercié le Seigneur. Bien, j'ai demandé premièrement pour la chose. Une fois que j'ai demandé, j'ai reçu au même moment que j'ai prié. Par la suite, je vais commencer à remercier le Seigneur pour la chose que j'ai déjà demandé au Seigneur. Comprenez-vous? Je fais ma demande, je reçois en même temps, et là, je commence à remercier le Seigneur parce que je sais qu'il a entendu et parce que je l'ai déjà reçu dans le spirituel. Amen. Mais là, vous dites, ben, je ne l'ai pas reçu, je vais reprier. Mais si on reprie toujours la même chose, ce n'était pas une prière de foi. parce que vous n'avez pas cru que vous l'avez reçu, parce que vous êtes obligé encore de redemander. Est-ce que ça fait du sens ce matin? Amen. OK, on continue. Une autre chose, un autre obstacle devant nous, c'est le non-discernement de la dispensation dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pasteur? C'est du chinois. Le non-discernement de la dispensation dans laquelle nous vivons. Saviez-vous que nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament? Nous avons une alliance qui est fort meilleure, plus glorieuse. Mais des fois, on voit des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, et puis ils vont prendre des passages de l'Ancien Testament, avant la croix, avant l'œuvre de la croix, et puis là, ils vont prier ces choses-là. Et puis là, on les voit sincères, ils prient, et puis, « Oh Seigneur, je veux percer le ciel », où ils vont prier en pleurant. J'ai vu ça plusieurs fois, parmi même des leaders. On va prier, on va demander au Seigneur des choses, comme si on n'avait pas cette chose-là déjà accomplie. Et c'est tragique parce qu'on passe des heures à prier, des prières que Dieu dit, hey, « J'ai déjà répondu, vous n'avez pas entendu parler de mon Fils que j'ai envoyé sur la terre, il a déjà accompli ces choses-là. » Mais pourtant, vous c'est comme si vous n'avez pas réalisé qu'il a déjà fait. Donc, vous demandez pour une chose, mais pourtant, je l'ai déjà accompli. Une des choses que vous devez comprendre, c'est concernant le ministère de Jésus. Ça, c'est une autre chose. Il y a des gens, des fois, qui disent, « OK, ben les prières de l'Ancien Testament, certainement, on peut les lire, s'en inspirer, mais toujours à la lumière de notre alliance, de notre dispensation. » OK, sauf que là, je peux dire, « OK, oui, ça, c'est très bien pour David, admettons. OK, le roi David a écrit tel psaume, c'est bien. Mais aujourd'hui, pour moi, est-ce que c'est vraiment pertinent ou est-ce que j'ai quelque chose de mieux? » Souvent, vous allez voir, « Ah, ça a déjà été accompli en Jésus, donc j'ai plus besoin de prier cette prière. Là, je peux remercier le Seigneur pour l'accomplissement de cette vérité. » Comprenez-vous? Ça, c'est super important. Sinon, vous allez prier des prières et perdre beaucoup de temps. Au lieu de remercier le Seigneur pour la chose déjà accomplie, vous allez essayer de l'avoir. Puis les gens perdent leur temps. C'est pour ça qu'on ne vit pas la vie de prière efficace. Concernant Jésus maintenant, c'est important de comprendre ceci. Dans Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4. Il est écrit, « Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Sommes-nous sous la loi aujourd'hui? Nous sommes sous la grâce. Donc, qu'est-ce qui se passe des fois? On va prendre les textes dans le Nouveau Testament, parce que là, on se dit, bien là, on est dans le Nouveau Testament, donc obligatoirement, ici, c'est pour nous, ça nous concerne. On doit comprendre les passages qui étaient avant la croix, et les passages qui sont après la croix. C'est important de faire la différence. Parce que quand Jésus parlait aux gens avant la croix, bien eux aussi étaient sous la loi. Donc nous, on prend ces mêmes textes-là et on commence à les prier, puis on se dit, bien c'est les paroles de Jésus. Oui, mais on a passé à côté d'une chose. On n'a pas remarqué qu'il s'adressait à des gens sous la loi. Bon, qu'est-ce qu'on veut voir maintenant? Le Notre Père. Avez-vous déjà entendu parler du Notre Père? Vous avez entendu parler du Notre Père. Matthieu, chapitre 6, verset 9. On va juste rapidement avec des principes juste de base ce matin. Voici donc comment vous devez prier. Quand Jésus parlait, vous, il s'adressait ici aux apôtres, n'est-ce pas? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On va aller au verset 13 maintenant. Ne nous induis pas en tentation ou ne permet pas qu'on soit tenté. « Mais délivre-nous du malin. » Jésus enseignait à ses disciples ici, là, « Délivre-nous du malin. » Aujourd'hui, devrions-nous prier comme ça, « Ô Père, délivre-nous du malin. » Mais pourtant, la majorité des chrétiens vont prier des prières comme ça. On va prier le Notre Père sans vraiment remarquer que nous sommes après la croix. « Délivre-nous du malin. » Oui, mais le Seigneur comprend. Qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on veut prier bibliquement ou juste, ben là, Seigneur comprend. Mais si Seigneur comprend si bien, sans doute, Dieu comprend toutes choses. Mais une des choses qu'on doit comprendre, le Seigneur nous appelle à marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Il nous appelle à discerner des choses. Et une autre chose, c'est que si vous avez, bon, vraiment, vous dites, bien là, Seigneur comprend, mais comment ça, on ne voit pas autant de réponses à nos prières? Vous savez, il y a des gens qui prient pendant des années de temps, « Seigneur, délivre-moi de tel péché. » Et là, ils vont prendre cette prière-là, la prière, le Notre Père. Délivre-nous du malin. Oh Seigneur, délivre-moi du malin. Délivre-moi de l'alcoolisme, Seigneur. Oh Seigneur, délivre-moi de toutes sortes d'autres problèmes, de la colère, Seigneur. Oh, délivre-moi, Seigneur. Et là, on prend le texte dans Matthieu 6, le Notre Père. Est-ce que je peux vous inviter à voir un texte dans Colossiens chapitre 1? Colossiens chapitre 1, versets 13 à 14. Ici, ça nous parle que le Père nous a délivrés. Dites, nous a délivrés. Nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ici, on parle du malin, là. De la puissance des ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Remarquez, nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, quand vous priez maintenant, et il y a quelque chose dans votre vie, et vous êtes là, vous avez le désir d'être délivré de cette chose-là, réalisez que, voilà, 2000 ans, vous avez déjà été délivré. Donc, vous ne priez plus, « Délivre-moi, s'il vous plaît !» Non, vous dites, « Merci Seigneur Dieu, parce que maintenant, j'entre dans ma position d'un homme délivré. Je suis délivré à cause de Jésus-Christ. À cause de l'œuvre de la croix, les chaînes ont été brisées. Je suis libre, maintenant, je le décrète sur ma vie, et je rentre dans ma position d'homme délivré. » Ça fait toute la différence. Parce que ceux qui ne comprennent pas ça vont prier des années de temps, « Seigneur, délivre-moi. » Puis pourquoi que le Seigneur ne le fait pas? Je ne comprends pas. Il nous a montré comment prier dans le Notre Père. Et je prie fidèlement chaque jour. Ça fait 10 ans que je prie ça pendant une heure, « Délivre-moi. » Et je m'attends toujours. Un jour, le Seigneur va le faire. Je ne sais pas quand, mais un jour, j'ai la foi qu'il va le faire. Un jour, il l'a déjà fait. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Des fois, dans notre vie de prière, on prie des prières qui sont vaines. On est sincère, mais on est sincèrement dans l'erreur. Et là, on est frustré dans notre vie chrétienne. On marche dans notre vie chrétienne et on dit, je comprends rien. Pourquoi le Seigneur ne m'aime pas? Il y a plus ces... Regarde, eux, ils étaient enchaînés. Ils ont été délivrés, ils ont été guéris, ils ont vécu ci puis ça. Puis moi, comment ça? Je suis comme ça. Ça ne doit pas m'aimer. Non, peut-être c'est juste parce que vous avez prié des mauvaises prières. Oui, mais est-ce que Dieu est si compliqué que ça? Non, il n'est pas compliqué du tout. Il nous invite juste à lire sa parole. À lire sa parole, discerner qui nous sommes, notre position en Christ. On ne s'approche plus de Dieu maintenant avec un sentiment d'infériorité. Non, on a une révérence pour le Seigneur, mais nous savons aujourd'hui que nous sommes les saints de l'Éternel. Nous avons accès auprès du trône de la grâce et on se présente avec assurance et avec la connaissance de notre héritage en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous appartient? Qu'est-ce que Jésus a déjà fait pour nous à la croix? Amen. Amen. Bon, je continue. En passant, une autre chose qu'on doit remarquer concernant la dispensation dans laquelle nous vivons. Dans Jean chapitre 16, versets 23 à 24, ici on voit que Jésus, il prophétisait quelque chose, il annonçait quelque chose. Il dit, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Dites en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ici, Jésus parle aux disciples et dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Avez-vous déjà pensé pourquoi il dit ça? « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Ces personnes encore non régénérées, qui n'étaient pas nées de nouveau, okay, n'avaient pas encore non plus le privilège d'utiliser le nom de Jésus dans les façons qu'on va voir bientôt, dans quelques instants. « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Une des choses, quand on découvre, maintenant, après la croix, là, Christ, le Seigneur Jésus, a racheté notre autorité qui avait été déléguée à Satan. Je vous invite à étudier le thème « L'autorité du croyant », c'est absolument essentiel. Si vous voulez avoir une vie chrétienne victorieuse, c'est gratuit sur l'Internet. « L'autorité du croyant », c'est une série, on passe à travers vraiment le thème de l'autorité du croyant, c'est absolument essentiel. Mais ici, il est en train d'introduire la doctrine de l'autorité du croyant. Non seulement ce que nous devons discerner dans la dispensation dans laquelle nous vivons, mais nous devons également saisir la vérité de notre autorité. Aujourd'hui, vous avez le droit d'utiliser le nom de Jésus quand vous priez. Vous avez maintenant le droit. Vous avez le droit et le privilège. Écoutez bien, dans Matthieu 28, versets 18 à 19, c'est un texte que vous connaissez bien, Matthieu 28, 18 à 19. Ici, là, nous découvrons quelque chose d'absolument merveilleux. Après la croix, nous savons que Jésus a regagné l'autorité que l'être humain a cédée à Satan. On sait que Satan est devenu le dieu de ce siècle. Dans 2 Corinthiens 4, 4, nous savons ça. Hein, à cause de la chute, tout ça. On ne va pas tout expliquer aujourd'hui, mais quand Jésus est venu, tout ce que l'homme, l'être humain, avait perdu dans le jardin d'Éden, Jésus, à la croix, il a regagné ces choses-là. il a été victorieux sur la mort. Et par la suite, il a déclaré dans Matthieu 28, 18 à 19, « Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Remarquez ce que Jésus a dit. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ensuite, Jésus a dit à son Église, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il disait, « Allez, faites de toutes les nations. » Remarquez ici, Jésus a reçu le pouvoir, l'autorité. Il a regagné par la croix. Mais par la suite, il relâche ça à son Église. Il dit, « Allez, faites quelque chose. » Des fois, on est là et on dit, « Ben, le bon Dieu va agir. Dieu va faire ceci. Moi, j'attends que Dieu agisse. » Mais Dieu, il dit ici, Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » John Wesley, vous avez peut-être entendu de cet homme-là, un homme de Dieu du 18e siècle, a dit, « Il semblerait que Dieu est limité par nos prières. » Et ça pourrait choquer des gens, ça pourrait déranger des gens. « Mais il semblerait que Dieu, ou l'action de Dieu sur la terre, est limitée par nos prières. » Absolument. Parce que quand Dieu donne de l'autorité, quand il a délégué de l'autorité à l'être humain, Dieu respecte l'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Des fois, on dit, « Ah, j'attends que Dieu fasse quelque chose. » Et Dieu, selon les lois divines, il dit, « Non, je vous ai donné l'autorité de faire ça. C'est à vous maintenant de le faire. C'est à vous de passer à l'action. Oh Seigneur, Seigneur, évangélise la planète. » Non, non, allez, vous, levez-vous de votre siège et allez, faites de toutes les nations. Mais Seigneur, on prie des longues prières, on fait des ralliements, puis on dit, Seigneur, oh, évangélise, Seigneur. Tu dis, non, c'est à vous d'y aller. Amen. Éphésiens chapitre 1, en parlant ici de l'autorité, remarquez bien ceci. Dieu, en parlant de Dieu, a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et remarquez bien maintenant, dans Éphésiens 3, verset 10, dans la Bible du Sommeur, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. C'est merveilleux ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est par l'Église. C'est que Dieu nous a donné son nom, le nom de Jésus. Quand on prie, on peut prier au nom de Jésus. Et non seulement cela, comprendre que nous avons l'autorité, en plus, de l'utiliser. Nous avons l'autorité qui nous a été donnée. Là, je vais vous lire un autre texte concernant notre autorité, dans Marc 16, versets 15 à 18. Encore une fois, concernant notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est écrit ici, puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé, quelle sorte de baptême ici? On parle du baptême dans le corps de Christ, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dites « en mon nom ». Ils chasseront les démons. Dites « ils ». C'est qui le « ils » C'est Dieu. C'est nous. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, pas par exprès certainement, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu nous appelle à passer à l'action. Dieu nous appelle à prier, mais des prières de foi. Dieu nous appelle à prier des prières bibliques et selon notre dispensation. Si on passe à côté de ces choses-là, on peut prier 5 heures par jour et Dieu est là, il nous entend, il est comme, j'aimerais donc ça répondre, mais ils savent, ils connaissent pas leur position en Christ. Ils savent pas que j'ai déjà répondu. C'est maintenant à eux de rentrer dedans. C'est à eux. Souvent, on attend après Dieu. En terminant, je vais vous donner juste un survol d'un autre obstacle que je prendrai pas le temps aujourd'hui d'expliquer. Mais l'autre obstacle super important devant nous, c'est l'ignorance des sortes de prières. Dites « sortes ». Je vais lire juste un verset concernant ça. Éphésiens 6, verset 18. Il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Remarquez ici là des choses. Il y a des prières de consécration. Des prières de consécration. Où on se dédie à Dieu pour recevoir sa direction. On ne sait pas quoi faire, comme tantôt je parlais de l'université. Mais là, ici, on va se consacrer au Seigneur, on va se dédier à lui et dire, « Seigneur, montre-moi le chemin. » Et là, on va être à l'écoute de l'Esprit de Dieu en nous. Une autre chose, la prière de foi. Ici, c'est une chose spécifique. Là. On le sait, là. C'est une chose spécifique. On ne prie pas, Seigneur, je prie que je vais aller à telle université, je relâche ma foi. Non, on ne peut pas relâcher notre foi pour l'université comme ça. On doit prier, savoir si Dieu veut qu'on soit là. Une fois qu'on le sait déjà, là, on a besoin de l'argent. Là, on peut se mettre en accord et prier ici pour peut-être le financement. Comprenez? Mais la prière de la foi ici, on parle d'une prière fondée, établie, là où la volonté de Dieu est connue. Est connue. C'est-à-dire que si elle est connue, on connaît la volonté de Dieu, là, on peut prier une prière de foi. Ensuite, il y a une prière d'un seul accord. Prière d'un seul accord où on s'unit avec d'autres croyants pour prier pour la provision divine, que cette provision divine vienne sur la terre. Et il y a également les prières avec l'intelligence et par l'esprit. Avec l'intelligence, on parle ici de notre langage qu'on connaît, bon, français, anglais, peu importe les langues, mais avec l'esprit également. Là, on parle des supplications, les prières d'intercession, les prières de contemplation. Tu dis, mais c'est quoi ça? Mais c'est juste les sortes de prières que je viens de vous énumérer. Et je viens de toucher à peine aux sortes de prières qui sont là dans la parole de Dieu. Et vous dites, oui, mais moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de sortes de prières. Mais si on prie les prières, les mauvaises prières pour les besoins, bien, c'est pour ça que ça ne marche pas notre vie chrétienne. On prie des choses, Seigneur, c'est ta volonté. Quand Dieu dit, bien, regardez, lisez la Bible, c'est ma volonté, vous ne l'avez pas remarqué. Là, on prie des prières comme ça. On prie des prières de consécration quand c'est pour une guérison, par exemple. Oh, Seigneur, je me consacre à toi pour être guéri. Non, c'est déjà accompli. On mélange tout ça. Et là, après, on est frustré dans notre vie chrétienne. Mais aujourd'hui, je crois, vous avez appris certaines choses, peut-être, certains d'entre vous. Peut-être aujourd'hui, vous avez dit, au moins, j'ai réalisé que je dois apprendre des choses sur la vie de prière. Peut-être. Peut-être qu'il y en a ici qui disent, ben, je connaissais pas toutes ces choses-là. Et là, aujourd'hui, je réalise, j'ai besoin de passer plus de temps à l'étude de la parole de Dieu concernant la prière. Est-ce qu'il y en a ici, peut-être, qui disent, j'ai besoin d'apprendre plus de choses sur la prière, je ne connaissais pas tout. Et là, imaginez, si cet été, là, au tout début de la réunion, je vous ai donné un défi, et peut-être au début, c'était comme, ah ben oui, c'est bon, c'est bien, je veux faire ça. Mais là, peut-être, vous réalisez le besoin essentiel que vous avez de vraiment découvrir la vie de prière. Parce que si vous passez l'été, là, vous dites, cet été, l'été 2012, ça sera l'été là où ma vie va changer. Je vais découvrir les sortes de prières dans la parole de Dieu. Je vais prier selon mon alliance, dans ma dispensation. Je vais prier selon la volonté de Dieu. Et watch out, diable, là, tu vas voir, là, je vais te déplacer en titi. C'est vrai. Là, vous allez prier des prières et là, tout d'un coup, vous priez une chose et là, ah, hein, j'ai eu la réponse. Wow! Savez-vous, Dieu veut que vous puissiez vous réjouir quand vous priez. Dieu veut que vous puissiez vous réjouir. Vous venez de prier une chose. Wow! Vous savez, j'ai parlé de toutes sortes de choses quand on avait prié pour la manifestation de la bénédiction, quand on était en vacances. Mais on peut prier ça à plein de niveaux. Et là, on dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, voici une promesse de ta parole. Je réalise que c'est pour moi aujourd'hui. Et si c'est dans l'Ancien Testament et on sait que c'est déjà accompli en Christ, je peux dire, regarde, Seigneur, à cause Christ l'a acheté pour moi, là, je te remercie pour cette chose. Je te remercie pour la manifestation aujourd'hui dans ma vie. Là, vous recevez, vous sortez et là, vous vous attendez de voir ces choses-là se manifester. Et votre vie chrétienne change. Et là, les gens qui vont vous voir aller, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Tout d'un coup, tu es joyeux, tu n'es plus déprimé. On dirait que Dieu a fait des choses dans ta vie. On dirait qu'il y a des changements qui se passent dans ta vie. Oui, j'ai passé l'été 2012 à m'approcher du Seigneur. J'ai passé l'été 2012 à prier. J'étais en vacances, mes orteils étaient dans l'océan. Mais le Saint-Esprit travaillait en moi. Et là, je priais des prières et le Seigneur a commencé à changer ma vie, à transformer mes situations, mes circonstances. Ah ben moi, l'été, j'ai passé ça, je décrochais quand même. Il faut avoir des temps de repos. « Ah oui, j'ai des temps de repos en Jésus, moi. J'ai des temps de repos où le Seigneur vient me ressourcer, où je passe du temps en auto. On est là, j'ai un frère et une sœur qui me disaient qu'ils étaient aux douanes pendant 2 heures, mais ils ont écouté 5 heures d'enseignement biblique sur CD. Hein? Pourquoi pas? On n'est pas obligé de se laisser voler. Ben non, on est là pris dans le trafic. » On écoute des enseignements ou on écoute la louange et là, on se met à louer le Seigneur pendant que les autres autour sont là frustrés puis ils sont irritables. Nous, on est en train de grandir dans notre foi. On sort de notre auto, on vient de payer des douanes en plus puis on dit « Alléluia parce que Dieu est ma provision. » Hein? Mais t'es pas frustré, tu viens de payer 25$ de douane. Ben non, parce que le Seigneur savait que je devais payer ça. Et puis je sais qu'il va pourvoir tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ça change votre vie. Si on prie, des prières où on voit vraiment la puissance de Dieu, où on voit ces prières efficaces. Ou option B, venez d'entendre une heure, là. Option B, continuez comme ça, ne voyez pas beaucoup de résultats, soyez déprimés, perdez votre temps, vivez la religion évangélique sans puissance, sans force, sans résultats, sans fruits. C'est comme ça. Tant qu'à prier, on est tous bien de prier des prières qui fonctionnent, n'est-ce pas? Que Dieu veut répondre ou qu'il a déjà répondu et maintenant c'est à nous de saisir et de se réjouir. Amen. Donc, je vais vous inviter maintenant, on va juste pencher nos têtes, je vais inviter l'équipe de la louange à s'approcher et on va prier ensemble concernant notre engagement envers le Seigneur pour la prière. Père éternel, je veux te remercier, Seigneur Dieu. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu nous as donné ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour cette parole vivante. Merci, Seigneur Dieu, pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne ta parole, pour qu'on puisse avancer avec toi, pour qu'on puisse vivre des percées dans nos vies. Merci, Seigneur Dieu, pour la manifestation de ta présence, de ces réponses, Seigneur Dieu, dans nos vies. Je veux prier, Seigneur, aujourd'hui. Je veux prier pour mes frères et pour mes sœurs dans cette maison. Seigneur, qui sont peut-être fatigués parce qu'ils ont prié pendant des années de temps sans voir beaucoup de résultats. Aujourd'hui, je prie pour une visitation de ton Saint-Esprit sur eux, maintenant. Tous ceux qui veulent plus de toi, tous ceux qui sont là, qui disent, « Seigneur, je suis un peu fatigué, j'ai besoin que tu viennes sur moi. J'ai besoin que tu viennes et que tu me touches. J'ai besoin que tu souffles sur moi pour me rafraîchir. » Aujourd'hui, je prie pour ces frères et ces sœurs qui savent peut-être pas comment prier aujourd'hui. Et je prie aujourd'hui que tu puisses vraiment te révéler à eux comme étant l'enseignant, comme leur enseignant. Que tu les guides, que tu puisses les conduire, Seigneur Dieu, dans la vérité concernant la prière. Aujourd'hui, nous prions pour une révolution dans cette église au niveau de la prière. Nous sommes une église, Seigneur, où nous voulons prier, une église où nous voulons lire ta parole, où nous voulons être imbibé de toi, Seigneur Dieu. On ne veut pas vivre la religion, mais on veut vivre une relation vivante avec toi. On veut vraiment découvrir les splendeurs de qui tu es. On veut voir, Seigneur, toutes les choses que tu as faites pour nous. On veut les voir dans nos vies. On ne veut pas juste croire des choses, mais on veut les voir. Enseigne-nous, Seigneur Dieu, à prier d'une façon qui va te plaire. Seigneur Dieu, enseigne-nous aujourd'hui à abandonner les choses, les coutumes, les habitudes, les traditions qui ne viennent pas de toi. Aujourd'hui, on te permet à venir faire le grand ménage par ton Saint-Esprit, que tu puisses mettre ta lumière céleste sur ces choses qu'on faisait qui étaient vraiment juste une perte de temps. Oh Seigneur, aujourd'hui, on s'engage devant toi. Seigneur, on dit cet été, l'été 2012, c'est un temps consacré. C'est un temps consacré où nous voulons voir une révolution dans notre vie de prière. On ne sera plus jamais pareil à cause de cette décision aujourd'hui. Seigneur, on croit dans ta parole. On veut vivre le miraculeux dans nos vies. Nous voulons voir les signes, les prodiges, les miracles. Nous voulons voir la provision de ta parole dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que nous croyons que tu le fais maintenant. Seigneur Dieu, je prie aussi pour ceux qui ont eu de la difficulté à prier, qui ont peut-être vécu beaucoup de paresse spirituelle. Je prie maintenant pour eux. Seigneur Dieu, pour l'énergie de ton Saint-Esprit, ta puissance, Seigneur Dieu, qu'ils puissent avoir la vision du privilège de la prière, qu'ils puissent avoir une nouvelle vision, qu'ils ont vraiment un grand privilège de prier. Seigneur, visite-les également, qu'ils puissent pas voir la prière comme une obligation ou un devoir, mais un privilège. Et ensemble, qu'on puisse progresser avec toi sur ce chemin de la bénédiction, qu'on puisse voir toutes ces réponses à nos prières, qu'on puisse se réjouir et que ça puisse déborder nos vies pour que d'autres frères et sœurs et même les inconvertis qui puissent découvrir les choses qu'on est en train de vivre avec toi. On a prié au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes d'accord aujourd'hui, je vais vous inviter à vous lever et acclamer le Seigneur. On vient de s'engager devant Dieu. L'été 2012, c'est le temps où on va vraiment prier comme jamais avant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour une vie de prière révolutionnée en 2012. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.